avec l'arrivée des rebelles que j'ai fui parce qu'ils ont sémé la terreur au sein de la population.
Ils ont commencé à tirer en l'air, ils ont dit Allahu Akbar. Après ça, ils ont dit que où est l'argent? Moi, j'ai dit que je n'ai pas d'argent.
On ne veut pas que la guerre recommence. Nous voulons que ça soit la fin et non le début.
Bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition hebdomadaire de Sahel Plus. Aujourd'hui, au sommaire, les enjeux climatiques du Sahel et leurs conséquences exposées devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. Réaction suite au verdict du procès d'Hissène Habré, l'ancien homme fort du Tchad. Et puis, rubrique santé, un savon anti-palu. Voici tous les sujets que nous allons développer dans Sahel Plus. Restez avec nous. Les défis de sécurité, de gouvernance et de développement qui se posent aux pays de la région du Sahel sont en particulier liés au changement climatique. C'est l'affirmation de l'Union africaine. Pour comprendre ce phénomène, Eric Manirakiza a joint à New York le haut représentant de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel, l'ancien président du Burundi, le major Pierre Buyoya, qu'il a exposé devant le Conseil de sécurité des Nations Unies.
Pour moi, c'est une évidence, c'est quelque chose qui est là depuis longtemps. J'ai pu, par exemple, indiquer comment, dans le conflit malien, il y a la part de la grande sécheresse de 1973 qui a fait que les populations du Nord ont émigré massivement en Libye. Et quand ils sont revenus en 2012, ils sont revenus en armes. Et c'est ça qui a déclenché toute la crise. Parce que cette région, c'est une région extrêmement vulnérable sur le plan du climat, de l'écosystème, ce qui a un impact direct sur la vie des populations. C'est une région qui connaît un déficit important sur le plan alimentaire, qui connaît des catastrophes naturelles régulièrement, la sécheresse, l'inondation. Et tout cela a comme conséquence de fragiliser les populations. Elles sont à la merci de tous les aventuriers qui viennent là-bas, des terroristes, des trafiquants de drogue.
Et à vous donner l'exemple du Mali, est-ce qu'il y a d'autres pays qui sont très affectés par ce phénomène?
Autour du lac Tchad. Comment la détérioration de l'environnement autour du lac Tchad a fragilisé les populations là-bas, ce qui fait que cette région est devenue un terreau de recrutement pour Boko Haram.
Vous avez sans doute proposé des recommandations ou des voies de solution.
Comment lutter contre la désertification, comment faire la restauration des terres pour fixer les populations sur leurs terres, comment améliorer la subsistance de ces populations. La réponse est qu'il faut aller la rechercher dans la problématique du développement d'une façon globale. Par exemple, on a parlé d'appuyer fortement ce qui est en train d'être fait dans le cadre de la Mirai verte, comment qu'il faudrait réhabiliter le lac Tchad, qui est un lac qui est en voie de disparition.
Y a-t-il une responsabilité quelconque des États dans ce qui s'est passé?
Il y a une responsabilité des États dans le sens de dire que les États ont la première responsabilité de lutter contre le changement climatique, notamment en s'appuyant sur le fameux accord de Paris.
Pierre Buyoya, haut représentant de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel. Le dossier central de Sahel Plus est évidemment consacré au verdict du procès de l'ancien homme fort du Tchad, Hissène Habré. Nous démarrons par les réactions en provenance du Tchad, où les victimes se réjouissent de la condamnation de l'ex-homme fort de N'Djamena à la prison à vie pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre. La correspondance d'André Komanjingar.
Hissène Habré, la Chambre condamne à la peine d'emprisonnement à perpétuité.
Berdao Gustave, président du tribunal des chambres africaines extraordinaires en charge du dossier Hissène Habré. Dès l'annonce de cette sentence, les victimes qui suivaient ces procès historiques à la minute près en direct de N'Djamena, à travers un petit écran installé à leur siège, éclatent de joie. Durant son règne de 1982 à 1990, Hissène Habré était président de la République, chef suprême des armées, puis ministre de la Défense. Il a créé et entretenu un système où la terreur et l'impunité sont érigées en règle. Ses victimes se réjouissent de la condamnation de leur bourreau.
Je suis soulagé parce que justice a été rendue.
Tout ce que je demande, qu'il soit pardonné. Et je remercie le Seigneur d'avoir écouté la voix des orphelins et des veuves.
Aujourd'hui, 30 mai 2016, reprenons ensemble plus jamais ça.
Plus jamais ça.
Plus jamais ça.
Le gouvernement tchadien prend acte de ce verdict qui, selon le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, est une victoire pour les victimes et pour leurs conseils.
Nous ne pouvons que prendre acte de la décision rendue et nous féliciter du verdict, surtout rendu par une juridiction mise en place par l'Afrique pour juger l'ex-dictateur Hissène Habré. C'est une fierté pour nous tous, tout en relevant que les partis disposent d'une quinzaine de jours pour faire appel. Le gouvernement reste mobilisé auprès des victimes, comme il a eu à le faire par le passé. C'est une victoire pour les victimes, c'est une victoire pour le gouvernement tchadien et une victoire pour les partis défendant les droits humains à travers le monde.
Moustapha Ali Alifoui se prononce également sur l'indemnisation de ces victimes.
Le verdict qui vient d'être fait est un verdict pénal. Il y aura une juridiction civile qui va engager les partis et prendre en compte cet aspect de la question. Il est évident qu'au niveau du Tchad, lorsque le procès s'est déroulé pour les complices, il y a eu effectivement des saisies des biens des uns et des autres afin d'indemniser les victimes. Donc, dans la phase actuelle, il y aura un appel et puis après l'appel, le gouvernement donnera une position beaucoup plus claire et beaucoup plus déterminante sur ce qui va se faire par la suite.
André Kotumadinga, N'Djamena, pour VOA Afrique.
La condamnation de l'ancien président tchadien est très mal digérée par ses partisans. Son avocat rappelle que son client a toujours rejeté la compétence des chambres africaines extraordinaires, où son client est jugé depuis juillet 2015. La décision rendue lundi dernier par le tribunal ne surprend donc pas dans son camp, ainsi que l'a déclaré maître Ibrahima Diawara.
Il est clair que dès le début, on avait déjà donné notre position sur la légalité des chambres africaines que notre client, le président Hissène Habré, ne reconnaissait pas et qu'il ne reconnaît pas aujourd'hui. Et la décision qui vient d'être rendue ne nous surprend pas. Nous l'avons dit depuis très longtemps, depuis que cette affaire a commencé. On avait dit que c'était une affaire à chaque fois que le procureur général demandait quelque chose et puis il se voyait accorder toutes ses demandes. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Mais nous, ce qu'on retient tout simplement dans cette affaire, en ayant entendu aujourd'hui le délibéré qui a été vidé, c'est que malheureusement, les chambres africaines extraordinaires viennent de nous dire qu'en Afrique, les présidents de la République peuvent être poursuivis et déclarés responsables dans leur propre pays pour tout ce qui se passe dans les commissariats de police, tout ce qui se passe dans les brigades de police, tout ce qui se passe dans les services de sécurité et tout ce qui se passe concernant le fonctionnement de leurs armées. Je pense qu'il y a des présidents africains qui ne doivent plus dormir.
Alors, qu'est-ce que vous allez faire maintenant?
Pour nous, cette affaire est terminée le jour où les juges des chambres africaines extraordinaires ont refusé d'accepter la stratégie de défense qui a été mise en place en accord avec notre président Hissène Habré et qu'elle avait pris la décision de nous écarter de la procédure et de choisir elle-même des avocats qui étaient prêts à défendre le président Hissène Habré comme le voulaient les chambres africaines. Ceux-là qui ont été choisis d'office contre la volonté du client qu'ils défendaient et qui ont été payés par ces chambres africaines, je pense que ce sont ceux-là aujourd'hui qui ont des réponses à donner sur l'exercice ou non des voies d'appel.
Que répondez-vous à ceux qui disent que le président Hissène Habré est un dictateur et qu'il mérite bien cette sentence, voire plus?
Oui, vous savez, c'est ce qu'on entend souvent. Je dis souvent aux gens, on ne nous a pas appelés dans un combat de gladiateurs. On nous a appelés à comparaître devant la justice. Et je pense que quand on dit justice, c'est un mot qui renferme des règles, le respect de certaines procédures et une certaine démarche. Alors, quand des gens vous appellent dans une chose qu'ils appellent justice et pour laquelle vous vous rendez chaque jour qui passe, qu'elle fonctionne au-delà des normes de la justice ou des fois en contradiction des normes de la justice, il est normal que ces gens-là disent ça parce que ça ne traduit que leur volonté, que cette affaire n'a jamais été une affaire de justice, mais qu'il suffisait simplement pour ceux qui, hier, adversaires de Hissène-Habré avaient perdu, ont réussi à transformer leur défaite politique en affaire judiciaire pour arriver à cela mettre hors d'état de nuire le président Habré.
Maître Ibrahima Diawara, l'un des avocats d'Hissène-Habré, condamné lundi 30 mai 2016 à la prison à perpétuité. Aucun homme, aussi cynique soit-il, ne peut être indifférent à autant d'atrocités, de calamités qui ont été décrits tout au long de ce procès, a dit à VOA Afrique maître Hassan Diomandiaï du collectif d'avocats des victimes de Hissène-Habré. Joint à Dakar par Nathalie Barge, voici sa réaction.
Un réel sentiment de satisfaction et de soulagement, d'abord à l'endroit des victimes qui ont fait preuve de patience, d'abnégation et d'obstination pour obtenir ce procès et ensuite voir leur statut de victime consacré aujourd'hui par la Chambre africaine et également un grand soulagement pour le fait que l'Afrique ait relevé ce grand défi, le défi de juger un de ses fils en respectant tous les principes d'un procès juste et équitable et en démontrant qu'elle est capable de prendre en charge ses propres destinées. Et ça, je crois que pour nous qui militions en faveur des droits de l'homme en Afrique, c'est un grand jour qui se lève.
Quelle a été la réaction de Hissène-Habré?
Comme d'habitude, il a été toujours froid, imperturbable, même si nous savons qu'au fond de lui-même, il doit avoir des remords d'avoir été à l'origine de toutes les atrocités qui ont été retracées devant lui, devant l'Afrique, devant le monde. Je crois qu'au-delà de sa supposée sérénité, je pense que c'est un homme qui doit être meurtri dans sa chair. Aucun homme, aussi cynique soit-il, ne peut être indifférent à autant d'atrocités, de calamités qui ont été décrites tout au long de ce procès.
Il a la possibilité d'interjeter appel. Cependant, où va-t-il purger sa peine?
Tout dépend de lui. De toute façon, a priori, le Sénégal est le lieu le plus indiqué. Mais en matière de justice pénale internationale, nous savons que la personne qui est condamnée peut demander à aller purger sa peine dans un pays qui accepterait de l'accueillir. Mais si d'aventure il y avait une procédure d'appel, je crois qu'il resterait au Sénégal en attendant que la procédure soit définitivement purgée.
Qu'en est-il de ses avoirs?
Nous sommes dans la phase de culpabilité. Nous savions que nous ne pouvions pas faire des demandes. C'est le parquet qui avait demandé une confiscation. Mais pour nous, la saisie conservatoire qui a été faite demeure. Et le moment venu, quand il s'agira de formaliser les constitutions de partie civile, évidemment, nous demanderons à ce que ces avoirs soient confisqués et versés dans le fonds qui sera institué pour la prise en charge de l'indemnisation des victimes.
Maître Hassan Diomandiaï, président de la Ligue sénégalaise des droits de l'homme.
La Voix de l'Amérique au Tchad, 24 heures sur 24, à N'Djamena, en direct sur 93.1 FM et sur FM Liberté, aussi à N'Djamena.
Rubrique santé pour finir l'émission. Au Burkina Faso, un ingénieur a monté une start-up qui fabrique un savon repoussant les moustiques, vecteurs du paludisme. Un projet mené à bien depuis 2013, dont la commercialisation devrait se faire d'ici 2017. Maïlis Hegel a joint le fondateur de la start-up Faso Soap, Gérard Niondico.
Ce n'est pas un savon qui soigne. Ça permet de prévenir, d'éviter de contacter le paludisme en éloignant les moustiques. On a vu qu'en Afrique, en général, le savon, c'est l'une des seuls produits que tu peux retrouver dans plus de 95% des ménages. Et même les ménages les plus pauvres, ils utilisent le savon. Alors que le paludisme est un mal du siècle. En Afrique subsaharienne, chaque fois, ça tue des gens. Moi-même, j'ai été victime du paludisme. J'ai des amis qui ont décédé à cause du paludisme. C'est un problème. Hier, et on s'était dit, si on arrive à intégrer la prévention dans un produit qui est accessible, qui ne demande pas de changement d'habitude, ça pourra mieux combattre ce fléau. C'est pourquoi nous, on a pensé effectivement à faire un savon. Une fois que la personne se lave avec le savon, ça permet de protéger contre les piqûres de moustiques. Et le problème aussi ici, chez nous, c'est que les gens, ils ont difficulté de changement d'habitude. On constate qu'il y a des gens qui ont même des moustiquaires à la maison, mais qui ne les utilisent pas parce que ça ne rentre pas dans les habitudes. Mais le savon, ça ne demande pas de changement d'habitude, ça peut mieux s'intégrer dans le quotidien de la population.
Quelles sont les prochaines étapes pour ce savon? Quand est-ce que va commencer la commercialisation et à quel prix allez-vous vendre ces savons?
Depuis 2013, on a travaillé sur le développement des prototypes de ce savon, mais il fallait faire tout un travail de recherche en amont pour la validation scientifique, réaliser des tests d'efficacité même dans des laboratoires spécialisés. On compte finaliser la recherche et développement de ce savon d'ici fin de l'année pour pouvoir commencer à lancer la production, la diffusion en 2017.
Sans aller trop loin dans les explications, comment ça marche chimiquement parlant?
Le savon contient des huiles essentielles qui sont répulsives contre les moustiques et la personne se lave avec le savon et ça va laisser toute une film sur la peau et l'odeur va être diffusée sur le long terme. Notre objectif, c'est d'atteindre 6 heures de protection, étant donné que les moustiques commencent à transmettre le palud le soir et on veut protéger au moins les gens avant qu'ils aillent dormir derrière les moustiques. C'est pourquoi notre objectif, on veut atteindre au minimum 6 heures de protection.
Votre objectif à long terme, c'est de commercialiser ce produit dans un petit peu tous les pays d'Afrique.
Nous, on projette de sauver d'ici 2018 5000 vies du paludisme en distribuant notre savon dans les 6 pays les plus touchés par le paludisme. On va travailler avec tous les partenaires qui soutiennent cette cause pour pouvoir toucher toute cette population vulnérable.
Gérard Niondiko, fondateur de la start-up Faso Soap à Ouagadougou, au Burkina Faso. Sahel Plus, c'est fini pour aujourd'hui. À la production, Georges Léonard Sagno. Au micro, Claire Morin-Gibourg. Rendez-vous mercredi prochain, 18h10, sur VOA Afrique. Nous nous quittons en musique avec le musicien d'origine soudanaise, Sinkan, et son morceau, Aouibi. Bonne soirée et bonne nuit à tous. Sometimes